un peu de mouvement au cachet oriental. J'ai réfléchi totalement ce qui se
passe. Moi, j'ai fait une diplomatie au Cassandra. Je pense qu'en se rencontrant les deux amis de mes présidents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour et bienvenue à tous dans Parole aux auditeurs. Parole aux auditeurs, c'est le Congo profond qui s'exprime librement, mais avec courtoisie, sur les antennes de Radio Okapi. La dernière décision du ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire sur l'accès à l'université du nouveau finaliste du secondaire, c'est le débat d'aujourd'hui de l'émission Parole aux auditeurs. D'après cette décision prise vendredi dernier, n'accéderont directement à l'université que les élèves ayant obtenu au moins 60% à la fin de leurs études secondaires, ou ceux qui auront obtenu moins de 60%, le ministre en charge de l'enseignement supérieur et universitaire a décidé qu'ils devront passer par un test d'admission à l'université. Comment réagissez-vous face à cette décision et que faire pour relever le niveau actuel de l'enseignement en RDC, précisément dans l'enseignement supérieur et universitaire? Et universitaire, réagissez sans tarder à ces questions en direct sur Radio Okapi par SMS en nous appelant directement à nos numéros de contact que nous vous communiquerons bientôt ou encore par Internet. Nous en discutons aujourd'hui avec le ministre de l'enseignement supérieur et universitaire, le professeur Macha Komamba. Il intervient depuis Kisangani où il est en visite d'inspection. Bienvenue dans cette émission, monsieur le ministre, et excellente condition d'écoute à toutes les auditrices et auditeurs de Radio Okapi.
Réagissez en direct à l'actualité dans Parole aux auditeurs. Composez le 081-99-77-800 par Internet en écrivant à pa@radiokapi.net.
Bonjour professeur Macha Komamba.
Bonjour.
Vous êtes ministre de l'enseignement supérieur et universitaire. Vous intervenez depuis Kisangani, comme je l'ai dit. Vous êtes en visite d'inspection. Qu'est-ce qui a motivé cette décision?
La décision de Kisangani?
Non. Cette décision que désormais les élèves qui n'auront pas obtenu au moins 60% devront passer par un test. Pour entrer à l'université.
Merci beaucoup. Je pense de tout temps, l'accès à l'enseignement supérieur universitaire a toujours été réglementé. Et la dernière réglementation remonte au 3 juin 1987, en complément de la réglementation du 5 juillet 1982, qui prévoyait que pour entrer à l'université, il fallait avoir un diplôme d'état avec 60%. Pour entrer dans un institut supérieur, il fallait avoir un diplôme d'état avec 55, au moins 59 ou plus. Et ceux qui avaient moins de 55%, donc entre 50 et 54%, il fallait qu'ils aillent en préparatoire. Il y avait 4 villes du pays qui avaient le préparatoire. C'était Kananga, Kisangani, Mbandaka et Bukavu. Mais comme on peut le constater, malgré cette réglementation, finalement, suite à la pression politique de toute nature et le laxisme, finalement, entre l'enseignement supérieur universitaire depuis maintenant plus d'une décennie, bientôt deux décennies, toute personne qui a un diplôme avec quel que soit le pourcentage, et même nous savons maintenant qu'il y a aussi des gens qui entrent sans même avoir un diplôme d'État.
Comment ça?
Alors,
comment arrive-t-il à entrer à l'université sans avoir un diplôme de fin d'études secondaires?
Ah, mais c'est ce que nous sommes en train de découvrir à travers les différents contrôles de scolarité. Ceci devient dramatique quand on a fait, par exemple, 6 ans pour devenir médecin ou 6 ans pour devenir ingénieur. Et quand on contrôle la scolarité, on se rend compte que la personne n'a jamais même un diplôme d'État. Alors on peut se poser des questions, comment ces personnes sont parvenues jusqu'à tenir un premier cycle, un deuxième cycle. Ça c'est un premier point. Deuxième point, aujourd'hui il y a une telle sursaturation des auditoires, une bonne partie des étudiants sur les cours dehors, il y a une destruction accélérée des infrastructures, tout le monde réclame des infrastructures. En fait, le comportement que nous avons affiché, autorité, parents, étudiants, ne permet pas aujourd'hui finalement d'organiser correctement l'enseignement supérieur universitaire. Il est donc important dans cette volonté du chef de l'État de promouvoir le volet éducation que nous puissions revenir aux normes et c'est pour cela que l'enseignement supérieur universitaire est un endroit de formation par excellence pour le cadre du pays. Il faut définir les conditions. Un diplôme minimum de 60% nous paraît être la condition minimale et nous ne pouvons pas oublier qu'une volonté des jeunes de pouvoir étudier. C'est pour cela que pour ceux qui ont un diplôme entre 50 et 59, un concours leur est ouvert, mais tout cela en fonction de la disponibilité des places dans les institutions. Donc, c'est ceux qui vont se classer utilement. Ceci pourra, je pense, rappeler à nos enfants qui sont à l'école secondaire qui doivent prendre leurs études pour qu'ils améliorent leur niveau, qu'ils obtiennent un diplôme d'État avec un meilleur score. Ceci va mieux les préparer à l'enseignement supérieur universitaire.
Merci beaucoup, monsieur le ministre. On vous garde encore dans cette émission.
Parole aux auditeurs.
Avant de faire intervenir Théodore, qui est en ligne depuis Kinshasa, monsieur le ministre, brièvement, je voulais vous poser cette question. Est-ce que cette mesure concerne aussi l'enseignement supérieur et universitaire, mais dans le privé?
Mais absolument, les conditions devront être les mêmes parce que c'est l'État qui organise l'enseignement supérieur universitaire tant dans le secteur public et privé. Le programme d'études dans les deux secteurs, c'est l'État qui le fixe. Et c'est le ministre qui est en charge de l'enseignement supérieur qui signe les diplômes. Et vous savez aussi qu'au dernier conseil des ministres du lundi 22 juin, même le niveau de professeur de chef de travaux devra être agréé par le ministère qui signera les arrêtés de reconnaissance du niveau des enseignants dans le secteur privé. Donc c'est un engagement du gouvernement à mieux contrôler et à mieux accompagner le secteur, tant dans le domaine public et privé.
Mais la faisabilité de ce contrôle, de ces tests dans les différents instituts supérieurs et universitaires privés risque de poser problème à cause du personnel. Comment allez-vous faire pour organiser tous ces tests à l'intérieur du pays, même dans les, je ne sais pas, dans les petites universités et instituts supérieurs qu'on retrouve dans les fins fonds du pays?
Mais je suis à l'intérieur du pays, justement, on est en train de découvrir. Je vois, par exemple, un ISP à Yangambi qui n'a que 7 étudiants, un deuxième ISP dans la même cité qui a 40 étudiants. Je pense là aussi, justement, le conseil, en acceptant que, en décidant que nous puissions faire l'enquête de viabilité, c'est en vue, justement, d'assainir et de créer, de ne laisser que des institutions que l'on peut contrôler, pour lesquelles on peut certifier que toutes les conditions légales ont été remplies à tout point de vue, tant pour le corps enseignant, le corps administratif, que pour ceux qui ont la qualité d'étudiant.
Merci beaucoup.
Donc, c'est un long processus que nous commençons, mais la refondation de l'enseignement supérieur universitaire dans notre pays, donc la formation des cadres, passe obligatoirement par ce chemin.
Voilà, donc vous avez une tâche d'Hercule, comme on l'a dit. Monsieur le ministre, vous êtes avec nous tout au long de cette émission. Il est temps aussi d'écouter nos auditeurs qui ont leur point de vue, leur idée sur cette question. Il y a notamment Théodore qui intervient depuis Kinshasa. Il est contre votre mesure, monsieur le ministre. On va aussi l'écouter. Bonjour, Théodore.
Bonjour, monsieur le journaliste.
On vous écoute.
Oui, je ne partage pas le point de vue, le même point de vue avec le ministre de l'enseignement universitaire. Je pense que, en fait, nous devons considérer le problème de l'enseignement comme étant un problème total et global. S'il faut parler de refondation, il faut commencer au niveau de la base, au niveau de l'école gardienne, au niveau de l'école primaire, secondaire, puisque à ce niveau qu'on obtient le prérequis qui pourra permettre à l'université et aux instituts supérieurs de recevoir un étudiant compétent et capable de faire face aux réalités universitaires. Mais puisqu'il faut le faire, comme le ministre l'a dit, qu'au niveau supérieur, et qu'au niveau inférieur, c'est-à-dire primaire et secondaire, que l'enseignement est au rabais, je trouve que ce sont des mesures qui ne sont que palliatives et non définitives. Et aussi, j'avais voulu que le ministre puisse penser aux états généraux de l'éducation pour qu'on arrive quand même à prendre certaines mesures où le système éducatif congolais doit être dans l'ensemble discuté. Plutôt que à chaque fois que nous avons un ministre, et il s'enferme dans son cabinet, il sort une mesure. Et si aujourd'hui, par exemple, il n'est pas ministre du gouvernement, quelqu'un d'autre qui passerait prendra d'autres mesures. Ça, c'est pour le premier volet. Le deuxième, je me souviens que de tout le temps pour accéder à l'enseignement de l'université, il fallait au moins, comme il a dit, 55% et juste 60% pour l'université. Mais aujourd'hui, quand on a 60%, est-ce que ça reflète réellement les niveaux de l'enseignement que nous avons? Parce que moi, si vous parlez, je donne cours à l'université. Ce n'est pas les 60% qui teste valablement que l'étudiant est en mesure de faire l'université.
Théodore, mais il y a quand même une différence entre un élève qui a obtenu 60% et un autre qui en a obtenu 50% à la fin de ses études secondaires.
Oui, je suis d'accord avec vous, mais aujourd'hui, dans l'évaluation, nous constatons qu'il y a la différence est nette, mais lorsque vous soumettez les deux au système actuel de l'université, vous pouvez vous rendre compte que celui qui a 60% peut être plus intelligent que celui qui a obtenu 60%. Je voudrais moi dire que ce n'est pas l'évaluation au niveau, ce n'est pas l'évaluation ou le test que le ministre pourra organiser pour qu'on puisse juger ces moyens de 700 ministres qui sont pour
Théodore, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez vous déplacer, Théodore? Théodore, s'il vous plaît, merci d'être intervenu depuis Kinshasa. Vous êtes contre la décision du ministre de Kinshasa. Nous allons nous rendre au nord-est du pays, plus précisément au Katanga. Et c'est Tamoba. Lucien, vous êtes là. Et vous êtes aussi contre la décision du ministre. Est-ce qu'on peut savoir pourquoi?
Ok, moi je suis contre pour la décision du ministre.
Oui, pourquoi?
Je vais partir de mon exemple. Moi, j'ai fait 53% à l'institut technique Viombo à Likasi. Je suis allé à l'institut supérieur. J'ai brillé pour plus que celui qui a fait 61% qui n'a pas pu terminer. D'abord, vous êtes très malade et vous n'avez pas fait 60% au test d'examen d'état. Mais avec le temps, vous avez été à l'université, vous êtes en bon état, en bonne santé. Vous avez fait plus que ce que vous avez fait aux humanités. Laissez chaque élève de se défendre lui-même à l'université par rapport au test là de l'examen d'état, ça n'a rien à voir sur l'université. La réalité de l'université est tout à fait autre que ce qu'on peut avoir à l'examen d'état.
Excusez-moi, vous avez obtenu combien?
Moi, j'avais obtenu 53%.
Oui.
Et à l'ISPT, j'ai fait justement 60, 61, 61 jusqu'à ce que j'avais terminé.
Voilà, merci. Alors, qu'est-ce que vous suggérez pour que on améliore le niveau de l'enseignement supérieur et universitaire?
Moi, je pense qu'on doit penser seulement à une bonne rémunération des éducateurs, payer bien les salaires, et puis c'est tout.
Voilà, merci beaucoup Lucien. Je rappelle que vous interveniez depuis Moba, c'est dans la province du Katanga. On va accorder la parole au ministre pour répondre à toutes ces interrogations de nos auditeurs. Mais avant cela, je vais lire un mail qui nous vient de la Belgique, plus précisément d'une étudiante qui est à l'université de Louvain. Elle dit ceci, j'avais obtenu mon diplôme au Congo avec 50%, j'ai été admise à la faculté de droit, mais ma première année fut d'un succès énorme. J'ai fini ma première année avec une grande distinction. C'est pour dire qu'on ne peut pas avoir des idées préconçues sur les candidats. Laissez-les partir à l'université et faire une expérience. Je demande au ministre de mettre avant tout les conditions nécessaires, c'est-à-dire qu'il paye bien les enseignants, qu'il construise de bonnes écoles et qu'il mette l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Monsieur le ministre, comment leur répondez-vous?
Merci beaucoup, j'étais d'abord à remercier les trois intervenants et leur dire que j'ai pris bien note de leur point de vue. Alors, je voudrais commencer par Théodore en lui disant effectivement que quand il parle de commencer par la base, maternelle, primaire et secondaire. Nous ne pourrons y arriver, M. Théodore, que si nous renforçons les ISP qui doivent fournir les enseignants de qualité à tous ces niveaux. Et je voudrais vous dire qu'on est tellement conscient du problème que vous avez soulevé que nous avons élaboré ensemble les 7 ministères qui ont le volet éducation avec comme fer de lance les PSP et l'enseignement supérieur ainsi que les affaires sociales, un projet de loi cadre qui doit être soumis au gouvernement puis au Parlement, en tenant compte justement de l'unicité de l'éducation à partir de la maternelle jusqu'à l'enseignement supérieur. Deuxièmement, toujours, en dehors de la loi cadre, nous sommes en train d'avoir un plan stratégique global avec des sous-secteurs, EPSP, enseignement supérieur, jeunesse, sport, travail, pour vous montrer que nous sommes conscients que, en fait, le tout est lié et que l'enseignement supérieur devra être cette institution qui forme l'élite. Cette élite qui est indispensable pour pratiquement impulser un sang nouveau au niveau qui va amener à ce qu'on passe de la maternelle jusqu'à l'enseignement supérieur.
Mais comment répondez-vous alors à Joséphine de la Belgique qui dit qu'elle avait obtenu 50%, elle est à l'université de Louvain et malgré cela, à sa première année, elle a fini avec une grande distinction. Comment expliquer?
Mais c'est pour cela que nous n'avons pas exclu du système ceux qui ont un diplôme entre 50 et 59. Ils vont être soumis au stade, donc on leur donne aussi cette possibilité de pouvoir réussir. Je voudrais vous rappeler que lorsque les examens d'État commençaient, l'obtention d'un diplôme d'État ne donnait pas directement droit à l'université. Nous, dans notre génération, nous avons passé ce qu'on appelait le test de maturité, qui était en fait un élément indispensable qui permettait d'accéder finalement et d'être orienté. Parce qu'aujourd'hui, finalement, on se dit, quel que soit le diplôme, on ouvre aussi l'université ou l'institut dans le village, parce que il faut absolument réussir. Mais l'exception, les 50%, personne n'a dit qu'ils étaient le moins intelligents. Et comme ils l'ont dit, on peut avoir une autre circonstance qui fait que au moment où on passe l'examen, on est sous stress et qu'on n'est pas venu avoir ce pourcentage.
Ou on est malade.
50% plus, on peut être malade. Oui. C'est pour cela qu'on donne l'occasion, la chance, dans des circonstances différentes, de pouvoir maintenant passer ce test qui permettrait certainement de montrer la valeur de ceux qui n'auraient pas eu ces 60%, dans l'hypothèse que tout le monde a le point qu'il mérite. Aujourd'hui, je pense que si on classe les gens entre 80%, 70%, 60%, 50%, c'est quand même un échelle de valeur qui permet d'avoir plus ou moins une évaluation des compétences des individus. Et je voudrais rappeler que l'examen, en fait, et l'évaluation de tout le processus, non pas de la dernière année, mais le processus que les enfants ont suivi pendant les 6 ans de l'école secondaire, avec le soubassement de l'école primaire. Et toutes les sociétés, aujourd'hui, dans cette époque de mondialisation, nous nous engageons sur cette volonté de pouvoir élever le niveau du primaire et du secondaire. Ça passera aussi par la réévaluation de ceux qui fournissent les enseignants.
Merci.
Mon dernier aspect que notre professeur du Katanga a dit, et celle de la Belgique, le volet social. Nous sommes conscients que parmi les éléments sur lesquels nous devons jouer, ce n'est pas seulement le niveau de sélection, il faut rééquiper, il faut surtout aussi améliorer les conditions sociales des enseignants à tous les niveaux. C'est un challenge dont on est conscient et qu'on n'a pas mis de côté. Je tenais à rassurer les 3 intervenants sur cette volonté du gouvernement de veiller aussi sur ce volet-là.
Voilà, merci beaucoup Monsieur le Ministre. Je rappelle donc le thème d'aujourd'hui pour ceux qui viennent de prendre cette émission en cours.
Radio Okapi, c'est le point sur l'économie. La vie des entreprises, les matières premières et les acteurs du secteur économique du Congo vous fixent le rendez-vous de lundi à vendredi à 18h15, heure de Kinshasa, sur Radio Okapi. Écho d'économie, le rendez-vous économique de la semaine.
parole aux auditeurs. Pour intervenir en direct ou envoyer un SMS, composez le 081 99 77 800, par internet ca@radiookapi.net.
Comme je le disais tantôt, je vous rappelle à vous qui venez de prendre en cours cette émission interactive de Radio Okapi, Parole aux auditeurs, émission au cours de laquelle vous pouvez intervenir en direct, soit au téléphone, par SMS ou encore par SMS, au téléphone ou par Internet, pour apporter ou pour enrichir ce thème. Voilà, donc nous parlons aujourd'hui du test qui a été institué par le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire en ce qui concerne les finalistes du secondaire. Ayant obtenu 60%, pour ceux-là donc qui ne pourront pas passer de test, ils vont entrer directement à l'université, tandis que ceux qui auront obtenu moins de 60%, à ceux-là on fera passer un test. Donc c'est une décision qui a été prise vendredi dernier par le professeur Machako Mamba, qui est ministre de l'enseignement supérieur et universitaire. Alors nous vous posons quelques questions auxquelles vous pourrez réagir. Comment réagissez-vous face à cette situation, excusez-moi la tautologie, et que faire pour relever le niveau actuel de l'enseignement RDC, précisément dans l'enseignement supérieur et universitaire. Donc, vous avez trois possibilités. La première, vous pouvez nous envoyer un SMS au 09 98 999 222, 09 98 999 222. Envoyez votre point de vue à travers un SMS et nous pourrons les passer également à l'antenne. Si vous n'avez pas assez de crédit pour nous appeler au 081 99 77 800, envoyez-nous votre prénom et un numéro de téléphone à travers lequel nous pouvons vous rappeler. Alors, nous allons vous rappeler tout juste après cette émission pour les téléphones. Vous l'avez déjà compris, c'est le 081 99 77 800. Et la troisième possibilité pour intervenir dans cette émission, c'est de nous envoyer votre mail par internet à l'adresse pa@radiookapi.net. PA en un seul mot, Radio Okapi en un seul mot également. N'oubliez pas qu'il y a deux O dans Radio Okapi. Net. Donc, nous restons ici à Kinshasa. Emmanuel, vous êtes en ligne, vous êtes dans la capitale. Vous êtes aussi contre les observations ou la décision du ministre, comme les autres auditeurs. Est-ce qu'on peut connaître aussi, on peut en connaître les raisons?
Oui, moi je suis étonné qu'au fil des décennies, les autorités gouvernementales commettent toujours les mêmes erreurs qui finalement donnent les mêmes effets. Le système éducatif est un tout, c'est un ensemble. Et à chaque étape, il y a une sanction qui est donnée, soit par le certificat de l'école primaire et le diplôme du secondaire, etc. Et cette sanction permet à l'enfant qui termine de passer, d'aller à l'autre étape. Ça, c'est de un. Il n'est pas normal que l'enfant qui traverse une étape soit encore soumis à des tests comme si on mettait en doute tout le travail qui a été fait en amont, qui, à leur avis, risque de compromettre le résultat en aval. Moi, j'ai eu 51%, mais l'ami avec qui on a fait tout le secondaire, qui avait chaque année 70%, n'a pas pu obtenir son diplôme d'État. Est-ce qu'il ne vaut rien? Ou moi, je vaux plus que lui? À partir de cet exemple, on peut se dire que non, il y a des paramètres qui interviennent. Le problème, depuis des décennies, pour notre système éducatif, c'est des réformes partielles. Celui qui est ministre de l'école primaire secondaire fait des réformes sans tenir compte de ce qui se passe au niveau du secondaire. On crée au sein du secondaire, on supprime le cycle d'orientation sans tenir compte du fait que ce qu'on introduit ne change rien, le cycle d'orientation reste dans le fond comme le tronc commun. Il faut réformer le système éducatif dans son ensemble, comme l'a dit un auditeur, en partant de la base qui est le centre des situations psychologiques de l'enfant jusqu'à l'université. Et cela en tenant compte des paramètres, notamment l'idéal social, politique, économique du pays, quelle machine mettre en branle pour former le type d'individus. Allô?
Oui, on vous écoute.
Le type d'individus dont la société a besoin, la machine en question, c'est l'éducation, le système éducatif. Tant qu'on procédera par des réformes ou des décisions prises entre quatre murs qui ne tiennent pas compte des facteurs généraux, on n'aboutira à aucun résultat positif.
Concrètement, Emmanuel, qu'est-ce que vous proposez au ministre?
Qu'on fasse, qui travaille avec les autres ministres, avec tous les acteurs dans le système éducatif, qu'on procède à une réforme générale du système éducatif sur le temps qu'on met ça en application. Et lorsqu'on arrivera à la dernière étape, et puis on posera des conditions qui voudront que si l'élève n'en vient pas à 60%, il n'accède pas parce que tout ce qui a été mis en branle avant, c'est-à-dire à la gardienne, au primaire et au secondaire, devait en principe le permettre d'avoir 60%.
Voilà.
De cette façon-là, on va miser sur l'excellence.
Voilà, j'ai cru entendre le ministre dire que pour prendre cette décision, il y a eu un travail fait par sept ministères. Monsieur le ministre, n'est-ce pas?
Oui, merci beaucoup. Je voudrais rassurer Emmanuel.
Oui.
Il a dit qu'il faut miser sur l'excellence et qu'il faut, il ne faut pas prendre des décisions entre quatre murs. Alors, je pense pour mieux me faire comprendre, je voudrais dire à l'ensemble des auditeurs, premièrement, l'état des lieux de l'enseignement supérieur est caractérisé par des éléments si souvent, et j'espère que les élèves peuvent comprendre qu'on est arrivé au bout et qu'il faut effectivement regarder le système si on veut le faire repartir. Premièrement, il y a donc sursaturation des auditoires. Il n'y a plus d'endroit. Je pense que si les parents sont attentifs, ils voient que dans les institutions, vous avez à l'intérieur des auditoires, le professeur a les étudiants et étudiantes qui sont assis ou même sur l'estrade et d'autres suivent les cours à l'extérieur. Deuxième élément, tous ceux qui ont fait la pédagogie savent qu'il faut qu'il y ait une adéquation entre l'enseignant et le nombre d'étudiants. Les normes, c'est un professeur pour 10 étudiants. À RDC, nous avons un professeur pour plus de 400 étudiants. Et donc, à ce moment-là, la transmission des connaissances pour arriver à l'excellence devient impossible. Troisième élément, la formation, surtout dans les domaines techniques, suppose aussi et exige la pratique, les travaux pratiques. Aujourd'hui, notre système produit des médecins, des ingénieurs qui n'ont pas fait de pratique par manque de laboratoire ou d'atelier. Quatrièmement, beaucoup d'infrastructures sont démolies. Il faut que les parents et les étudiants entre dans les auditoires pour voir la situation. On n'a même plus où s'asseoir, il n'y a même plus de bancs. Et un autre élément, 92% des établissements d'enseignement supérieur universitaire fonctionnent dans des écoles primaires et secondaires. Une classe d'école primaire ou de maternelle ne peut pas, par enchantement, se transformer en auditoire d'université. Alors, si, et je suis d'accord qu'on parle en disant il faut chercher l'excellence, il faut une vision globale, mais si on veut parler sans regarder ces réalités, on n'a pas décidé à partir des quatre murs.
Voilà.
Aujourd'hui, on est sur le terrain. Il faut que les parents regardent. S'ils parlent sans devoir visiter les institutions dans leur environnement, qu'ils aillent voir la situation, ils comprendront qu'on ne peut pas continuer comme ça, il faut décongestionner, il faut améliorer la communication entre l'enseignant et les étudiants, autrement ceux qui sortent n'ont pas la qualification que donne le titre du diplôme.
Voilà, merci beaucoup monsieur le ministre, puisqu'il y a beaucoup d'autres auditeurs, j'espère qu'Emmanuel vous êtes satisfait parce qu'il y a d'autres auditeurs.
Non, je ne suis pas satisfait parce que...
Rapidement, en un seul mot, en une seule phrase.
Tous les paramètres là sont valables pour tout le système éducatif. C'est pas une décision des paramètres pour prendre une décision au niveau du fait de l'université qui est en amont. On ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes. C'est l'État congolais qui a créé, qui n'a pas agi de manière à mettre les infrastructures, ne pas pénaliser des enfants à cause des erreurs des uns des autres.
Merci beaucoup Emmanuel pour votre intervention. De Manuel, nous passons à Richard qui est aussi à Kinshasa. Bonjour Richard. Docteur Richard?
Oui, je suis dans le studio.
Voilà, vous êtes... est-ce que vous pouvez vous éloigner de votre poste radio ou bien le fermer carrément? Parce qu'il y a un effet d'écho. Hein.
Je peux dire que sur votre radio est très touché par les auditeurs.
Oui, mais.
Mais
là, on ne peut pas s'entendre, là, parce qu'il y a beaucoup d'écho, radiophoniquement parlant, ce n'est pas possible de converser dans une telle ambiance. Donc, si vous pouvez vraiment vous éloigner de cette radio ou bien carrément la fermer. En attendant. Oui, en attendant que vous puissiez vous éloigner de votre poste radio ou la fermer, je m'en vais lire quelques mails qui nous sont parvenus. Il y a le docteur Germain Mambandou qui dit ceci. Et si demain, par remaniement ministériel, son excellence, monsieur le ministre Machako, n'est plus à l'enseignement supérieur et universitaire, quels sont les garde-fous que le gouvernement met en place pour que ces décisions prises ne tombent plus dans les oubliettes, comme cela fut le cas il y a quelques années? Merci pour votre question, docteur Germain. Il y a aussi Emmanuel Lyonje qui ne nous dit pas d'où il nous écrit. Il dit... Tous reconnaissant que le niveau des diplômés et d'État a baissé sensiblement, le remède ne réside pas dans la décision improvisée du ministre. On pourrait relever le niveau par le suivi du programme scolaire, le recrutement du personnel enseignant qualifié, le traitement noble du personnel enseignant, je pense qu'il parle du salaire, et c'est par cette même autorité, c'est cette même autorité qui décide aujourd'hui. En outre, cette décision devrait être communiquée aux élèves au début de l'année scolaire pour y faire face et non après avoir passé l'examen d'État et même après la publication des résultats. Merci également à vous. Gabriel Amundala qui ne nous donne pas également son origine, enfin qui ne nous dit pas d'où il nous écrit, encourage cette intention du ministre à poser des actes concrets et il faut, d'après lui, aller jusqu'au bout avec toute la rigueur et toute la fermeté. D'après lui, la loi de la sélection est nécessaire pour la qualité des intellectuels qu'on cherche à avoir, c'est-à-dire pour le développement qualitatif de l'enseignement, qui est un facteur prépondérant pour évaluer l'indice de développement humain, gage pour avoir de bons citoyens. Un anonyme également nous écrit en disant que le niveau de l'enseignement a baissé. Vous avez des étudiants qui terminent à l'université et qui ne savent pas construire des phrases en français. Merci également pour vos mail. Enfin, Berger Kumbu Kama de Kikwit au Bandundu s'exprime en ces termes. Pour moi, cette décision n'est ni une sanction, ni une solution pour mettre fin à la médiocrité, car en effet, cela fragiliserait le ministère de l'EPSP, l'enseignement primaire, secondaire, professionnel, qui a déjà fixé la condition de réussite à 50%. En plus, la réalité courante est que la réussite à l'examen d'État n'est plus conditionnée par l'intelligence seulement. Il y a d'après lui la chance et les moyens financiers qui ne sont plus à négliger. Merci à tous de nous avoir écrit. Madame Bijou, vous êtes à Kinshasa. Bonjour madame, quelle est votre contribution à ce niveau du débat?
Bonjour, au fait, je ne voudrais pas voir les choses uniquement d'un œil négatif.
Est-ce que vous pouvez d'abord réagir par rapport aux propos des auditeurs que nous venons d'entendre?
Mais tout à fait, justement, je voudrais un peu, en fait, je vais toucher à tous les points.
Hein.
Oui. Moi, personnellement, je ne voudrais pas voir les choses uniquement des nœuds négatifs. Parce que puis, je pense qu'il est quelque part important que cette décision soit prise, parce que d'un côté, ça permettra quand même et aux élèves et aux professeurs de mettre beaucoup plus de sérieux dans ce qu'ils feront comme travail.
Mmh.
Et puis, de l'autre côté, ça nous permettra quand même d'éviter d'avoir des auditoires de plus de 1000 étudiants. Il est quand même difficile de suivre tout le monde. 1000 étudiants, je pense que c'est trop. Et en même temps, je me dis que tout le monde n'est pas appelé à faire l'université. On ne va pas avoir un pays plein de cadres. Donc, quelque part, il faudrait faire la part de choses.
Mais qui peut faire l'université, d'après vous? Puisque tous les parents veulent envoyer leurs enfants à l'université pour avoir un bon emploi.
Et ceux qui en ont les capacités.
Et quelles sont ces capacités?
Effectivement, les gens qui peuvent le prouver, qui sont capables de le prouver, à partir de, ou sur base d'un test, effectivement comme l'examen d'État, donc quelqu'un qui fait quand même beaucoup de points. Je suppose que c'est quelqu'un qui a eu un cycle normal. Et quelqu'un qui peut faire 50, ça dépend. Il y a peut-être des gens qui ont moins, qu'on relève le niveau, soit par dénivelé ou je ne sais pas, je ne connais pas très bien les conditions qui caractérisent les critères de correction, hein, mais je suppose quand même que quelqu'un qui a eu un parcours normal, quelqu'un qui est en mesure de se défendre à la fin de ses études, c'est-à-dire il a tout un bagage intellectuel qu'il est en mesure de défendre à travers l'examen d'État.
Madame Bijoux, mais est-ce que les points qu'on obtient à l'examen d'État reflètent vraiment le niveau des élèves ou il y a d'autres paramètres qui comptent aussi? Par exemple, quelqu'un qui est malade, il y a aussi le phénomène labo où des gens travaillent les épreuves de l'examen d'État juste à côté des centres où les élèves passent leur examen d'État et puis leur communiquent des réponses.
Donc tout ça, au fait, il y a à boire et à manger. Je veux dire, dans la plupart des cas, les élèves qui réussissent sont quand même des élèves qui ont eu un parcours normal, intelligent, je veux dire. Mais au fait, ceux qui échouent, on ne veut pas dire qu'ils ne sont pas intelligents. Effectivement, il y a peut-être tous ces paramètres qui entrent en ligne de compte. Il y en a qui, quand ils passent leur examen, ils préfèrent le faire dans un endroit très calme, en pleine concentration. Effectivement, si tout autour il y a des bruits, il y a des problèmes qui ne le permettent pas de se concentrer, ça peut poser problème.
Et quelle solution alors préconisez-vous pour élever le niveau de l'enseignement supérieur universitaire en
Moi, Russie? Je pense qu'il est temps quand même pour le gouvernement de revoir ou de reformer le programme de notre enseignement. Nous utilisons des programmes vieux par rapport à l'évolution de la technologie, la science, tout ce qui se passe en tout cas sur la scène scientifique, parlant aussi de la mondialisation. Moi, je pense qu'il est vraiment temps de revoir le programme de l'enseignement. Prenons l'exemple du cours des technologies, où on apprend aux élèves le moulin à vent, par exemple. Nous avons tous vu ça en tant que Congolais. Ça nous sert à quoi, s'il vous plaît?
Et que voulez-vous qu'on puisse enseigner aux élèves l'informatique, comment manier les ordinateurs?
Non, en fait, qu'on s'adapte, hein, qu'on soit derrière la technologie. Je pense qu'il est vraiment, c'est le moment d'être derrière le rythme de l'évolution scientifique. Je sais que ça demande des moyens, mais je pense qu'il appartient au ministère, par exemple, de l'enseignement, à tous les niveaux, je veux dire, hein, d'en tenir compte, par exemple, quand on vote les budgets de l'État.
Oui.
Quelle est la part allouée à l'enseignement pour élever le niveau? Moi, mon problème, c'est plus au niveau de programme. Nous voyons tout ce qui se passe dans les entreprises de nos jours. Quelqu'un qui a fini l'université, il ne sait même pas manipuler l'ordinateur. Un simple programme de saisie de texte, c'est difficile. Or, je pense qu'il y a quand même moyen de mériter ce diplôme d'université.
Voilà.
Donc les gens sont obligés d'aller se former, donc ajouter d'autres formations dans des centres de formation, alors qu'ils sont licenciés. Ils ont passé autant d'années sur le banc de l'école. Au fait, finalement, au sortir des études, ils n'ont pas vraiment le bagage qu'il faut.
Voilà, merci beaucoup Madame Bijoux. Je rappelle que vous intervenez depuis Kinshasa. Nous encourageons les dames à intervenir parce que cette émission Parole aux auditeurs ne concerne pas que les hommes. D'une dame à une autre et d'une province à une autre, nous passons de Madame Bijoux à Sabrina. Et Madame Bijoux était à Kinshasa. Nous nous rendons maintenant au nord-est du pays, c'est-à-dire au nord Kivu, à l'est du pays, au nord Kivu, précisément à Butembo. Sabrina, vous êtes au rendez-vous. Merci d'être là pour Parole aux auditeurs. L'émission interactive de Radio Capi. On vous écoute. Est-ce que vous êtes du même avis que l'auditrice qui vous a précédé? Le programme n'est plus adapté aux réalités de l'évolution du monde actuel.
Elle a bien sa raison, c'est vrai, mais je ne sais pas si c'est que parmi les étudiants.
Sabrina, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez vous éloigner de votre poste radio parce qu'il y a un effet d'écho ou tout simplement le fermer?
Ok, simplement. Je voulais juste demander au ministre si c'est que parmi les étudiants qui ont certains profils, on a certains qui n'ont pas mérité son résultat. Et peut-être que parmi ceux qui ont moins de 60, ils ont mérité leur résultat. Alors je ne sais pas comment il va faire pour savoir qui a mérité parmi ceux qui ont 60 et plus et qui n'a pas mérité parmi ceux qui ont moins de 60.
Donc ça, c'est une question que vous posez au ministre. Voilà, on va d'abord laisser le ministre Machako vous répondre. On vous garde encore à l'antenne. Monsieur le ministre.
Merci beaucoup. Je tiens à remercier le docteur Richard et à...
Oui,
il y a monsieur Richard.
Il y a le docteur Richard,
mais pas encore. Il y a Emmanuel Yonzé. Et surtout madame Bijoux.
Oui.
Madame, merci beaucoup. Je pense que vous avez une vision qui rencontre celle du gouvernement. Et en fait, on ne peut pas aujourd'hui continuer à ignorer qu'il y a de nouvelles technologies de l'information, de la communication dans le système éducatif. et l'ordinateur font partie de ces équipements devenus maintenant incontournables. On ne peut pas oublier la mondialisation. Et donc, aujourd'hui, nous devons être conscients que nous avons sursaturé les auditoires. Et si vous devez apprendre quelqu'un à devenir ingénieur, à devenir maçon, à devenir menuisier, le nombre de questions que nous avons par rapport à la capacité d'accueil de nos laboratoires, de nos ateliers, ne permet pas que quelqu'un sorte incapable de se débrouiller et d'être utile à la société.
Mais pourquoi l'État congolais ne construit-il pas de nouvelles universités, de nouveaux instituts supérieurs, des écoles techniques? Apparemment, ce qu'on a aujourd'hui ont été construits par les missionnaires catholiques comme l'UNIKIN, protestants comme, je pense, Kisangani. L'État n'a construit que l'université de Lubumbashi. Il y a aussi l'université protestante aujourd'hui à Kinshasa qui s'élargit.
Ah, mon frère, il y a beaucoup de choses qui bougent à Kinshasa comme à l'intérieur. Et justement, peut-être les personnalités s'expriment sans connaître réellement ce qui se passe dans le terrain. Et comme aujourd'hui on ne parle que des conseils d'admission, on oublie qu'au cours du même conseil des ministres du lundi 22 juin, le gouvernement a pris l'option de favoriser les filières techniques professionnelles des arts et des métiers, et cela signifie que les ateliers, c'est pour vous dire qu'on est conscient que l'université va former des cadres de conception de commandement, mais il faut qu'il y ait des cadres de maîtrise, surtout dans les domaines techniques. Actuellement, notre orientation était trop généraliste. Beaucoup de sections pédagogiques, d'humanités littéraires, des humanités de biochimie ou de maths physique, et très peu de sections professionnelles et des arts et métiers. J'étais à Banouville, j'étais heureux de voir un jeune homme qui est en train de menuiserie. Je lui pose la question, qu'est-ce que vous comptez faire demain? Il me dit, je termine, j'ouvre mon atelier. Aujourd'hui, les parents ne doivent pas oublier que le système universitaire produit des chômeurs. On est mal formé dans de très mauvaises conditions. Les employeurs refusent de prendre beaucoup de diplômés. Est-ce que les parents vont fermer les yeux sur ce qui est en train de se passer? On peut voir sur une famille sur deux, il y a un enfant universitaire qui est à la maison mais qui ne peut pas trouver l'emploi, même sur un diplôme universitaire. Son expression, sa capacité d'écrire même une phrase, une lettre pour demander l'emploi est difficile. C'est pour cela que je voudrais m'adresser, je pense, à Richard, lui dire, si vous pensez que l'État s'est trompé, mais si l'État vous dit, maintenant j'ai fait une analyse sans complaisance et j'indique la direction, le système éducatif n'est pas seulement l'apanage de l'État, il est c'est un produit de la société pour former l'élite qui va diriger cette société. Et une société qui ne veut pas à un moment donné s'arrêter et faire une autocritique. Aujourd'hui, le gouvernement est au courage de faire cette autocritique. Il faut que les parents fassent à leur tour l'autocritique. Nous ne pouvons pas être un système éducatif au niveau supérieur qui ne produit que de chômeurs.
Monsieur le ministre,
notre décision est de pouvoir redresser progressivement les choses. On ne se fait pas d'illusion.
On sait
que c'est difficile, mais nous voulons nous orienter dans cette direction.
Monsieur le ministre, comme le demandait Madame Bijou de Kinshasa, quelle est la part aujourd'hui allouée à l'éducation dans le budget de l'État congolais?
Bon, je pense que là aussi, il faut être attentif. En 1960, nous avions à peine deux universités et le budget de l'enseignement supérieur universitaire était de l'ordre de 25% du budget de l'État. Au moment où j'ai quitté Kinshasa, nous étions à 1068 universités et instituts. Quelques jours que je viens de passer ici dans la province orientale, je viens de découvrir encore au moins 10 établissements d'enseignement supérieur universitaire et supérieur inconnus du ministère. Donc, je vous dis là aussi, je vois les autorités, j'ai posé la question aux autorités provinciales. Ils entendent qu'à tel endroit, c'est à l'occasion des incidents entre les étudiants qui sont dans un coin et les autorités locales qu'on découvre qu'il y a un établissement d'enseignement supérieur universitaire.
Mais c'est quoi le budget? Le budget de l'État dans
le domaine de l'éducation. Même si vous avez un budget, à partir du moment où finalement chacun a pensé qu'il peut créer une institution, le budget que vous avez pour ça établi, maintenant on est à 1000. Je ne sais pas combien on va faire parce que nous faisons cet effort de faire un état des lieux. Ce budget, quel que soit sa hauteur, au vu du nombre d'étudiants et du nombre d'institutions, je ne sais pas. Une maman qui a planifié, et ça je pense qu'elle est venue à l'aide du pays, avec le déplacement, vous planifiez à manger pour 6 personnes. Vous avez finalement une vingtaine de personnes qui viennent chez vous, fuyant le danger. Le budget que vous avez prévu, il est complètement dépassé.
Alors il est de combien? Le budget de l'éducation
ne dépasse pas les 3% du budget total de l'État.
Et pour toute l'éducation, monsieur le ministre.
Les auditeurs soient conscients des difficultés qu'on a à gérer un système qui n'a pas seulement de budget, avec une situation sociale aussi très difficile de tous ceux qui font fonctionner ce système, tant au niveau primaire et secondaire que de l'enseignement supérieur universitaire.
Et pour toute l'éducation, le budget 2009 prévoit combien?
Bon, moi, je ne peux parler que du budget au moins de mon secteur. Oui. Nous sommes en train de nous battre pour voir si le Parlement nous accordera une révision à la hausse. Mais si nous continuons à laisser des citoyens congolais ouvrir à leur guise des institutions, au bout d'un certain temps, nous n'en pouvons pas, on met sur le dos de l'État. C'est là aussi notre que les Congolais doivent prendre ça en considération.
Merci.
On ne peut pas réveiller, créer une institution au bout d'un an, on dit je n'en peux plus. Si vous supprimez ça, c'est un problème social. L'État dit déjà le fait accompli et l'État dit maintenant c'est assez, mettons de l'ordre. C'est
merci.
Ça que le compatriote doit comprendre.
Merci beaucoup, monsieur le ministre. On vous garde encore tout au long de cette émission.
Parole aux auditeurs.
Papsi Omatadi, dans la province du Bas-Congo. Glory, bonjour, vous êtes sur place. Vous avez suivi ce débat, je l'imagine. Hein. Qu'est-ce que vous apportez de plus? Êtes-vous pour ou contre? Ou avez-vous d'autres solutions à proposer?
Oui, bonjour, M. Claude.
Bonjour.
Moi, je suis contre, j'ai suivi l'émission. Je n'ai pas commencé au début, mais je suis contre la décision de M. le ministre.
Pourquoi?
Parce que... je ne sais pas si lui il ignore. Nous savons tous très bien qu'aujourd'hui les points qu'on donne aux élèves, pour que les élèves prennent au gouvernement d'État, sont des points qui ne valent pratiquement rien. Parce qu'il est difficile aujourd'hui de faire comprendre aux gens que c'est lui qui a fait 60% et plus intelligent que c'est lui qui a fait 50%.
Mais pourquoi vous dites, en fonction de quelles preuves vous dites que les points qu'obtiennent les élèves à l'issue de l'examen d'État ne sont pas les leurs, ce n'est pas vérifiable que ce sont des points qu'ils méritent?
Bon, je ne dis pas vraiment que ce ne sont pas les leurs. Je ne dis pas que ceux qui réussissent ne réussissent pas. Mais je suis en train de dire ce que nous avons constaté, que vous avez un élève très intelligent et très brillant, et même dans la vie pratique, ça fonctionne. C'est vrai que cet élève-là, pour l'année, on va faire 55. Et un élève qui est réputé n'est pas intelligent, on va faire 75%. On en a vu, on a des cas. Je ne sais pas si dans votre côté, vous n'avez jamais pu observer cela. C'est pourquoi, moi, je proposerais, au lieu de sous-estimer ceux qui font les 50% et de croire que ceux qui font les 60% se sont plus intelligents, le test doit être général.
C'est-à-dire? Glory? Glory, est-ce que vous pouvez vous déplacer un tout petit peu parce qu'on ne vous entend plus très bien? Est-ce que vous pouvez vous déplacer si vous êtes à l'intérieur d'une maison? Est-ce que vous pouvez aller à l'extérieur?
Oui, ça va, En
attendant, on va prendre Tchamala. Tchamala, vous êtes à Kinshasa. Il est temps que la ligne redevienne bonne avec Glory qui intervient de Matadi. Tchamala, vous êtes à Kinshasa. Bonjour d'abord. Vous trouvez vous trouvez la mesure moins efficace. Pourquoi?
Je trouve la mesure moins efficace parce qu'il est en train de concerner une face alors qu'il faut voir ça dans deux faces. Comme d'autres intervenants viennent de le dire, nous sommes en train de constater une anarchie dans l'obtention des diplômes d'État, surtout en termes de pourcentage, parce qu'il y en a aussi qui obtiennent plus de 60% qui ne le méritent pas, et ceux qui obtiennent aussi moins de 60%, qui ne le méritent pas, justement. Et par rapport à cela, comme l'intervenant de Matad vient de le dire, je souhaite vraiment que, qu'il y ait un test pour tous les candidats qui désirent accéder aux universités.
Même avec ceux qui ont obtenu 60%, donc tous ceux qui ont obtenu 60% et moins de 60% devraient, d'après vous, passer un test d'accès à l'université?
Justement, il devait passer des tests avant d'accès aux universités, comme vous le dites, parce que nous sommes en train de voir que ceux qui obtiennent moins de 60%, il y en a aussi qui ne le méritent pas, et ceux qui obtiennent plus de 60%, il y en a aussi qui ne le méritent pas, et d'ailleurs, car cela ne tienne. Nous sommes aussi en train de voir même des gens qui obtiennent 50%, qui désirent justement aller faire le politique, par exemple, et aussi encore quelqu'un qui fait la pédagogie qui va aller faire la politique. Donc il faut aussi que le ministre, là où j'ai dit que la mesure aussi est moins efficace, il faudrait aussi que le ministre puisse aussi élaborer comme une mesure, qu'on voit quand même comment on doit faire la part des choses pour des facultés aussi, les choses des facultés. Parce que nous avons constaté aussi des préfets qui sont en train d'organiser des labos juste pour se maintenir dans leurs établissements. Parce qu'ils doivent se maintenir, ils doivent organiser des labos pour que leurs élèves puissent obtenir de maths et puis pour qu'ils continuent de la sorte. Et c'est quoi là que les enfants sont en train d'obtenir? Ce n'est pas le leur. Et par rapport à cela, comment on voit encore dire non parce qu'il a obtenu 60% qu'il puisse accéder à l'université. Et je joue aussi le propos au propos de Madame Bijou qui venait d'intervenir. Oui. Parce qu'on doit dire parce que quelqu'un n'a pas pu obtenir 60% et qu'il le méritait, il fallait parce qu'il était malade ou sous stress, et il faut de ce moment qu'on puisse le favoriser. Non, c'est pas une raison. Parce qu'il n'a pas la fin du monde par rapport à cela. Il fait attendre s'il a échoué. Qu'il le reprenne encore. Nous avons vu aussi des gens qui ont trouvé qu'il ne méritait peut-être 50%, il ne méritait pas 50%. Aux résultats des examens d'État, qui accepte de reprendre. Comme il a réussi, il a maintenant deux diplômes. Quand il reprend, il fait 60%. Donc ce n'est pas aussi possible.
Jamala.
Quand que quelqu'un a obtenu 50% qu'il ne le méritait pas, alors il faut qu'on puisse le favoriser. Non, là, on risquerait aussi de favoriser d'autres qui ne le méritent pas du tout.
Merci beaucoup, Jamala, pour votre contribution. Vous intervenez à partir de la ville de Kinshasa, la capitale. Nous rentrons à Matadi. J'espère que la ligne est devenue bonne. Glory, vous êtes en ligne?
Oui, je suis là.
Alors, je vais vous poser une question. Qu'est-ce que vous, comment réagissez-vous face à la réponse du ministre qui estime que faire ce test avant d'accéder à l'université, c'est une réponse aussi au peuplement des auditoires?
Oui, justement, pour répondre à ce problème-là, je suis pharmacien de formation.
Oui.
J'ai fini l'année 2007 à l'université de Kinshasa.
Oui.
Nous avons ces problèmes, je suis conscient de ces problèmes. Et en tant qu'un intellectuel, je vois également la dégradation du comportement des étudiants. Donc, c'est pourquoi je suis d'accord qu'un test soit organisé pour, effectivement, afin que ceux qui seront, effectivement, déclarés étudiants soient des bons et non pas des mauvais. C'est le cas que nous observons partout là sur le rôle de Kinshasa, les Guinées, les IEC, ISTA et consorts. Voilà. Et pourquoi je voudrais que ces tests soient organisés pour tout le monde. Que c'est le bon puisse intégrer les entités. Mais pour ce qui est du pourcentage, je crois que le ministre Macaire ne va pas nous contredire, et il dit lui-même, j'ai passé en revue pour prendre un échantillon pour vérifier si les étudiants qui donnent le diplôme à 70, à 50, si réellement ils le méritent à la hauteur que lui il est en train de fixer en tant que ministre. Et aussi au ministre Machako, la question que je vais une observation que je veux faire. Il citait tout à l'heure le nombre d'intellectuels, le nombre d'universitaires. Lors du cinquantenaire de l'université au Congo, dans une réflexion avec les amis, j'avais posé cette question ici. Il ne suffit pas de dire que depuis 54, à nouveau, on a produit tel nombre d'intellectuels. Non. La question est de savoir qu'est-ce que ces intellectuels ont apporté à la République démocratique du Congo. Et c'est à ce moment-là que les ministres de Machako pourront se dire que j'ai bien travaillé, parce que étant chargé de l'enseignement supérieur, voilà ce que les étudiants apportent ou les intellectuels congolais apportent.
Dans voilà, merci beaucoup.
Congolais.
Merci beaucoup. Merci
dans
beaucoup.
Dans ce cas, je le soutiens.
Merci.
Pour donner un test afin que ceux qui vont entrer soient bons. Et que nos programmes d'entraînement également soient de façon à ce que les intellectuels qui seront produits soient également utiles à la société.
Donc, voilà, on vous a compris. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Glory. Vous interveniez depuis Matadi, c'est dans la province du Bas-Congo. Nous encourageons aussi d'autres auditeurs de cette province de nous appeler, et surtout aussi les dames, hein, parce que vous êtes moins nombreuses à nous appeler. Voilà, avant de laisser le ministre Machako répondre, je vais lire quelques mails qui nous viennent de partout, hein, à travers le monde. Il y a Gracia qui nous écrit à partir de la Chine. Elle dit ceci, je pense que ce n'est pas une bonne idée. Alors, quel est le sort de ceux qui ne réussiront pas cette évaluation? Si nous avons un professeur pour 4000 étudiants, ah, vous suivez très bien cette émission en direct depuis la Chine, grâce à merci beaucoup. Donc, si nous avons un professeur pour 4000 étudiants, pourquoi ne pas construire d'autres universités? S'interroge-t-elle. Je pense, d'après Gracia de la Chine, qu'avant d'appliquer cette mesure, il faudra d'abord que l'ordre soit établi au niveau de l'université. Merci, Gracia depuis la Chine. Osé Chiwapé, qui nous écrit depuis la Corée du Sud, plus précisément depuis sa capitale Séoul, dit ceci, je demande au ministre de revoir cette décision en lui demandant de soumettre tous les candidats au test, qui a dit que tout le monde doit aller à l'université pour être utile. S'il y a un professeur pour 400 étudiants, c'est justement parce que tout le monde pense qu'on devient spécial pour avoir fait l'université. On peut, d'après Osé Chiwapé de la Corée du Sud, orienter les élèves qui finissent leurs études ailleurs. Quelle garantie donne-t-on à ces tests auxquels on soumet ces candidats avec la corruption qui décrit plus d'un Congolais? Voilà. Et il y a aussi Zoser Kalengay de Madrid, en Espagne, qui se demande qu'est-ce qui est prévu pour un candidat ayant réussi aux examens à l'examen d'État avec moins de 55% et qui malheureusement ne parvient pas non plus à réussir au test. Le ministre va répondre après notre bulletin d'information de 11h. Je vais en profiter pour lire le plus de mails possible. Avant notre bulletin, Raymond de Bukavu se demande, dit que le ministre pense à certaines facultés clés de l'université et non à toutes les facultés, par exemple la médecine, vétérinaire, le droit, la polytechnique. Il devrait aussi insister qu'il n'y ait pas de médecin commercialiste ou pédagogue, un juriste mécanicien qui a fait la mécanique au secondaire. Il y a Yannick Fungi qui est étudiant à Vienne, en Autriche, en Europe, qui nous écrit et qui nous dit ceci. Je suis contre cette décision parce que ce n'est pas le fait d'obtenir 60% ou plus de 60% qui prouve que l'élève est capable. N'oublie pas, pour ce titre, que la corruption existe aussi au niveau du ministère. Je pense que cette décision risque d'augmenter la corruption dans notre pays si l'élève est incapable d'affronter l'examen d'État. Ici à Vienne, par exemple, en Autriche, c'est seulement en médecine qu'on fait faire un test. Et l'ingénieur Müller Lucinda de la Belgique pense que si le détenteur du diplôme n'a pas fait 60%, il ne peut pas faire l'université. S'il n'a pas 55%, on ne peut pas faire l'enseignement supérieur technique. Et enfin, s'il fait moins de 55%, il peut faire l'ISP, mais avec test. Sa décision qui consiste à faire les tests à tous les niveaux ne sera pas prise en compte, car les gestionnaires qui visent toujours les effectifs, et je pense que ces tests ne seront qu'une simple formalité. Merci pour tous vos mails. Il est presque 11h à Kinshasa, et une heure de plus à l'est et au centre du pays. On se retrouve pour cette émission par aux auditeurs après ce bulletin d'information. Nous revenons dans cette émission Parole aux auditeurs qui vous permet d'intervenir en direct sur Radio Capi sur le thème concernant le test d'accès à l'université pour tous ceux qui auront obtenu moins de 60%. Pour ceux qui auront obtenu 60%, ils entreront directement à l'enseignement supérieur et universitaire. C'est une décision du gouvernement congolais. Comment réagissez-vous donc face à cette décision et que faire pour élever le niveau actuel de l'enseignement en RDC, précisément de l'enseignement supérieur et universitaire? Nous en parlons avec le ministre de l'enseignement supérieur universitaire, le professeur Macha Komamba, qui intervient depuis Kisangani. Voilà, si vous voulez intervenir en direct, appelez-nous au téléphone au 081-99-77-800 par SMS au 09-98-999-222 et par internet à l'adresse PA, comme parole aux auditeurs, @radioocapi.net. Monsieur le ministre, je vais vous passer la parole pour réagir globalement à tous ces mails, tous ces SMS qui nous sont parvenus. Juste le temps de recevoir un appel de Bruxelles en Belgique. Thomas, bonjour, vous êtes sur place en Belgique à Bruxelles. Alors, comment réagissez-vous depuis Bruxelles face à cette décision? Est-ce qu'elle est bonne pour relever le niveau de l'enseignement en RDC?
Oui, merci pour la parole.
Je vous en prie.
La décision, elle est bonne, moi je l'ai appréciée. En ce sens que, comme je sais beaucoup de gens qui ont parlé, le Congo a beaucoup de problèmes, notamment les problèmes de l'éducation, mais je crois qu'il faut quelque part commencer. Ce que fait le ministre est déjà bon pour commencer, c'est un début. Et nous voulons qu'il y ait un début et qu'il y ait aussi une suite, quoi. Donc, qu'il y ait ces tests-là, mais qu'ils soient bien faits, qu'ils soient bien corrigés, qu'ils soient vraiment objectifs. Là, on pourrait avoir des bons étudiants et aussi, ils pourraient continuer à faire autre chose. On aurait des bons enseignants aussi, et peut-être pour être un début, et ça pourrait contribuer à quelque chose pour le Congo, quoi.
Est-ce qu'en Belgique où vous vous trouvez, il y a un test que les finalistes du secondaire passent avant d'accéder à l'université?
Ils font un test, oui, et puis il y a des orientations, c'est-à-dire qu'un étudiant de l'école secondaire ne peut pas aller n'importe où à l'université, il a une orientation, il sait où aller, il est orienté, il fait un test, c'est pour ça.
Voilà, donc comme le disait un auditeur, le ministre ne devrait pas permettre à un étudiant qui a fait la mécanique au secondaire d'aller faire la médecine à l'université. Bon, merci beaucoup Thomas pour votre réaction. Je rappelle que vous interveniez depuis Bruxelles, en Belgique, que vous interveniez en direct sur Radio Capitaine en parole aux auditeurs. Monsieur le ministre, on vous laisse répondre à cette pile de réactions qui nous vient de partout à travers le monde. Voilà, monsieur le ministre n'est plus en ligne. Monsieur le ministre, vous êtes en ligne? Non, donc on va chercher à reprendre le ministre de l'enseignement supérieur et universitaire, le professeur Mashako Mamba, qui est avec nous dans cette émission, juste le temps de prendre le point de vue de Dieudonné de Colésie. Dieudonné, vous êtes au Katanga, bonjour.
Bonjour, monsieur Claude.
Est-ce que vous encouragez la décision du ministre, comme l'a fait l'auditeur qui vous a précédé?
Bon, moi je dirais que je suis tout à fait contre avec le ministre.
Pourquoi?
Je dirais que je suis contre la décision du ministre parce que, comme mes prédécesseurs ont dit, je crois bien qu'il fallait commencer par le secondaire. C'est là où se situe le grand problème. C'est-à-dire revoir les systèmes des examens d'État. C'est-à-dire renforcer le système, soit rentrer à un système qui était avant le système, éliminer les choix multiples, faire carrément valoir les lettres. C'est-à-dire, à ce moment-là, on pourra éliminer un grand nombre d'étudiants qui passent par de choix multiples. Ça, c'est ma première préoccupation.
Rapidement, parce qu'on est presque à la fin de cette émission, en une phrase.
Ma deuxième, c'est-à-dire ce système que le ministre accepte actuellement, c'est un système qui était négatif lors de la Deuxième République. Je ne sais pas si le cahier de charges a été résolument bien suivi par le ministre pour prendre cette décision. Lui-même a dit que je pourrais donner un exemple, par exemple, la correction qui est là,
la
correction qui va suivre aussi, que les élèves demanderont de payer des primes, parce que tout n'est pas gratuit, il y aura un problème d'argent.
Voilà, merci beaucoup, on a compris, merci beaucoup, je crois que c'est Dieudonné de Colésie au Katanga. Le ministre est de nouveau en ligne, j'espère, monsieur le ministre, que vous avez suivi toutes les réactions qui nous sont parvenues de partout à travers le monde, je vous laisse y répondre.
Ok, merci beaucoup. Je tiens à féliciter, à remercier pour ce débat très intéressant et merci. Je peux résumer.
Est-ce que vous avez suivi toutes les réactions? Vous avez suivi toutes les réactions qui nous sont parvenues de la Chine, de la Corée du Sud, de la Belgique, des Liens?
J'ai suivi.
Voilà, allez-y.
Alors, donc, je pense qu'il y a une notion fondamentale, c'est que nous devons revenir vers le premier critère qui est l'adéquation entre le nombre de places disponibles et le nombre d'étudiants que nous admettons. Et je vois que les avis sont partagés, certains pour le test, d'autres contre, un bon nombre. Et pour le test, il y a ceux qui pensent qu'il faut le réserver à certaines filières. Et de ce où, je pense qu'il y a un point très important, la politique de moyens.
Oui.
C'est vrai qu'on pense que la société crée de nouvelles universités, faudrait-il encore avoir le moment, nous avons parlé du budget. Et je vois aussi qu'on s'interroge sur le diplôme d'État. Certains pensent que le diplôme mérité. Et d'autres, c'est plus radical en disant tous ces points, finalement, les enfants ne le méritent pas. En fait, on se rend compte que lorsqu'on donne une évaluation quantitative, les Congolais commencent à se poser des questions. C'est tout le monde est bon, et donc il ne faut pas qu'il y ait des critères de sélection. Et je vois aussi qu'il y a un point important qui est abordé sur le problème de l'orientation. Il y a que celui qui a fait les humanités techniques ne se retrouve pas en faculté de droit, ou celui qui a fait l'agronomie se retrouve en médecine. Et le dernier intervenant pense qu'il faut commencer par revoir le secondaire. Je voudrais dire que ceci montre effectivement que personne est indifférent au secteur de l'éducation. Mais la, cette camarade de Kinshasa qui dit qu'a apporté l'intellectuel depuis que les universités existent, en fait, c'est cette interrogation qui est fondamentale. Et on revient dans le fait de l'Alcénédie qui disait ne demande pas ce que le théâtre pour nous, mais qu'est-ce que vous avez fait pour l'Amérique? C'est dans la mesure où nous revenons progressivement vers une formation de l'élite. Ça ne peut pas être une formation de masse. Donc, il y a un bon nombre de ceux qui ont fini le CNAFEP qui n'entrent pas à l'école secondaire. Il y a un bon nombre de gens qui ont terminé avec un diplôme l'école secondaire qui n'entrent pas à l'université. Tout le monde passe à l'université. C'est pour ça que nous devons créer les conditions pour que l'enseignement primaire et secondaire puisse se relever. C'est en renforçant les ISP, en formant correctement les étudiants qui vont devenir les principaux avancés de ce secteur, et c'est en veillant à conformer les emplois présents et à venir par le choix précieux des filières et d'améliorer les conditions de transmission des connaissances. Un professeur se rapproche de un professeur pour 50 étudiants au lieu de 400 aujourd'hui. Ça se traduit, et ça c'est une information à laquelle je vais terminer, par un nombre de professeurs déjà âgés qui sont aujourd'hui paralysés, qui, il y a deux semaines, il y a un lista qui a eu un accès pendant le cours. C'est une surcharge de professeurs parce que finalement le système n'est pas contrôlé et l'enseignement supérieur ne formera des cadres qui demain rendront, qui répondront à la question de Kamala. Et là, nous aurons veillé dès maintenant, c'est difficile, on voit le débat qui s'anticipe, à ce qu'on revienne progressivement à l'adéquation.
Oui,
c'est une adéquation du nombre de places, le nombre de places disponibles et le nombre d'étudiants qu'on accepte par rapport au nombre de professeurs.
Monsieur le ministre, il y a Zoser de Madrid et Gracia qui nous écrit de la Chine, qui se demande qu'est-ce qui est prévu alors pour les candidats qui n'auront pas réussi au test d'accès à l'université, quand bien même ils auront réussi à l'examen d'État.
Alors, c'est pour ça que j'ai insisté sur le fait que l'option du gouvernement de pouvoir favoriser les filières techniques professionnelles des arts et métiers doit nous amener à former des cadres de maîtrise qui devront être entre les cadres de conception de commandement et les ouvriers de système éducatif. Et c'est pour ça que nous avons reçu la loi cadre, l'ensemble de sept ministères qui avons le volet formation, et que nous puissions, dans le plan stratégique que nous sommes en train d'élaborer, qui est un plan stratégique global, pratiquement voir comment le pays, la nation, le gouvernement peut pouvoir créer de voies de sortie pour tous ceux qui ne pourront pas accéder à l'université, mais dont on a besoin pour qu'ils puissent assumer certaines fonctions entre ceux qui ont le commandement et ceux qui ont les ouvriers.
Merci.
Et donc là aussi, c'est tout un ensemble sur lequel nous avons réfléchi dans le projet de la loi cadre.
Merci
et
beaucoup.
Nous sommes en train de travailler sur le plan stratégique.
Merci beaucoup, monsieur le ministre, d'avoir participé à cette émission et d'avoir répondu surtout aux questions et préoccupations de nos auditeurs qui interviennent de partout à travers le monde. Merci beaucoup, monsieur le ministre. C'est avec vous que nous terminons cette émission.
Merci.
Allô.
Fin de cette émission Parole aux auditeurs. Demain jeudi, nous nous retrouvons pour discuter avec vous, nos auditeurs et auditrices, du dernier rapport de l'ONG Global Witness. Ce rapport explique comment des entreprises étrangères achètent des minerais tels que la cassiterite, l'or et le coltan à l'est du pays et financent ainsi des groupes armés et alimentent les conflits à l'est du pays. Quel est votre point de vue sur ce rapport et comment mettre fin à ce commerce des minerais de la mort? Réagissez dès maintenant par SMS au 09 98 999 222 et par internet à l'adresse pacomparoleauxauditeurs@radiocapi.net. Titimpoutou et Pierrot et la Maison m'ont aidé à préparer cette émission et sous la coordination de Nicole Ngaka et Jean-Chantal a été à la mise en onde. Cette émission sera rediffusée à 20h heure de Kinshasa et vous pouvez également la retrouver sur www.radiocapi.net. Je vous laisse maintenant suivre la conférence de presse hebdomadaire de la MONUC. Portez-vous bien et à très bientôt.